Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka, émission consacrée aujourd'hui à la présentation du 96e numéro des Saisons d'Alsace, consacré au mystère du sous-sol alsacien. Et pour nous en parler, en studio à mes côtés, Hervé de Chalandard. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Alors c'est un sujet qui sort un peu de l'ordinaire. Les mystères du sous-sol alsacien, et l'on apprend que l'Alsace est une région au sous-sol particulièrement riche, avec de l'argent, du fer, du pétrole, de la potasse, et on peut en énumérer bien d'autres.
C'est un sujet effectivement qui peut paraître comme ça un peu particulier, mais qui est beaucoup dans l'actualité en ce moment. Et donc nous, les Saisons d'Alsace, on replonge dans les siècles passés, mais on a souvent des raisons actuelles d'en parler. Et en fait, nous, l'idée nous est venue parce qu'on parle beaucoup des richesses du sous-sol alsacien en ce moment, et en particulier du lithium. Il se trouve que le lithium, tout le monde a bien compris que c'était un vrai trésor parce que c'est une des composantes essentielles des batteries électriques. Les batteries électriques sont censées remplacer les moteurs thermiques de nos voitures prochainement, et donc il y a une course au lithium partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Bah, que l'Alsace est très riche en lithium, et en particulier en Alsace du Nord. Alors le lithium, en fait, est un métal assez répandu sur la Terre, mais c'est un métal assez difficile à fixer et à exploiter. Et puis en Alsace, on a la chance qu'il passe dans les eaux souterraines en Alsace du Nord, donc il y a de la géothermie là-bas, il y a deux centrales à Soultz, Sous-Forêt et Rittershoffen, qui vont donc chercher de l'eau très profondément dans le sol. On n'est pas à la nappe phréatique, on est bien en dessous évidemment, de l'eau très chaude. Et cette eau remonte, passe dans des machines, redescend, et donc il y a tout un circuit. Et donc cette eau est riche en lithium. Et alors maintenant, évidemment, la question, c'est de se dire, ce lithium, il faut réussir à le fixer. Donc il y a plusieurs entreprises qui sont en place en Alsace pour essayer de travailler là-dessus. Et on estime que ce gisement barinois, même seulement barinois, parce qu'il peut y en avoir aussi évidemment dans le Rhin, en particulier dans la potasse, pourrait satisfaire 30% des besoins français à l'horizon d'environ une trentaine d'années. Donc c'est énorme. Et donc c'est une nouvelle richesse de l'Alsace. Il y a la géothermie aussi qui a posé des problèmes, on pourra y revenir.
Sur le plan sismique.
Voilà, sur le plan sismique. Donc on s'est rendu compte que c'était pas facile à exploiter. Mais pour autant, c'est aussi une énergie d'avenir. Et il se trouve que l'Alsace, là aussi, est bien placée parce que le sous-sol est chaud assez rapidement, plus rapidement qu'ailleurs, et qu'il y a des eaux souterraines qui circulent, etc. Il y a très peu de temps, on vient de découvrir de l'hydrogène près de Saint-Avold, donc dans le sous-sol aussi, et juste à côté de l'Alsace. Donc on s'est dit, c'est quand même fou que l'Alsace soit de nouveau riche par ses sous-sols, alors qu'historiquement, elle l'a quand même été très souvent. Il y a l'argent, il y a le pétrole, il y a la potasse, et il y a bien d'autres choses. Et on s'est dit, c'est l'occasion de revenir sur toutes ces richesses-là, et de dire que l'Alsace n'est pas seulement belle et riche en surface, mais qu'elle est aussi belle, je ne sais pas, mais en tout cas riche dans son souterrain.
Alors, vous ouvrez ce numéro des Saisons d'Alsace sur un article consacré à l'inventaire du sous-sol français, mené en particulier à l'initiative de l'intendant des finances Daniel Charles Truden, par un personnage que l'on connaît pour d'autres qualités. Il fut le premier maire de Strasbourg en 1789, Philippe Frédéric de Dietrich.
Oui, alors Philippe Frédéric de Dietrich, c'est un grand personnage de...
scientifique de renom.
Voilà.
Un géologue
remarquable.
Et donc
on le connaît parce que c'est la fameuse scène, c'est le fameux tableau dans lequel...
Isidore Pils.
Voilà, Isidore Pils, où on le voit dans son salon à Strasbourg, dans son hôtel particulier à Strasbourg, en train d'écouter Rouget de Lille chanter pour la première fois ce qui sera la Marseillaise, qui s'appelait le chant de départ de l'armée du Rhin, je crois. Et donc, il a été connu pour ça, c'est le premier maire de Strasbourg pendant la période révolutionnaire. Il a d'ailleurs pas survécu la période révolutionnaire parce que, comme c'était un honnête homme, il a été guillotiné par les révolutionnaires. Mais c'était aussi un véritable savant. un vrai savant de l'époque, et notamment un minéralogiste. Et on a un auteur qui travaille régulièrement pour les Saisons d'Alsace, qui s'appelle Daniel Fischer, un historien, qui a notamment sorti un livre sur lui il y a peu de temps. Il l'a appelé « L'entrepreneur des savoirs ». Et histoire de bien montrer que c'était à la fois un entrepreneur, alors c'était à la fois un homme politique parce qu'il était maire de Strasbourg, un entrepreneur, parce que la famille de Dietrich, évidemment, on sait que c'était une grande famille industrielle en Alsace, et puis c'était aussi un grand savant. Et donc, Daniel Fischer a publié ce qu'il appelle une biographie intellectuelle de Dietrich, qui est en fait une biographie où il se met dans... Il appelle ça le présent du passé, c'est-à-dire qu'au lieu de raconter a posteriori la vie de la personne, il se met dans les différentes étapes de sa vie avec l'éventail des possibles et dans le contexte de l'époque. C'est une façon un peu différente de raconter les histoires. Et donc, on présente d'ailleurs ce livre dans ce numéro. Et puis, donc, il a fait aussi un article, comme vous le disiez, sur l'inventaire du sous-sol alsacien fait à l'époque, à la fin de l'Ancien Régime, par le Royaume de France. Et c'est sous la houlette de quelqu'un qui s'appelait donc Truden, qui était l'intendant des finances, qui est arrivé vers 1740, et qui, en fait, a entrepris de savoir quelles étaient ses richesses, parce que ça restait encore complètement méconnu. Et il y avait d'ailleurs, et c'est ce qu'explique dans cet article Daniel Fischer, il y avait d'ailleurs une différence assez notable entre ce qui se passait en France, au Royaume de France, donc l'Alsace à l'époque, était devenue française, et puis dans le Saint-Empire romain germanique, on était beaucoup plus avancé sur toutes ces histoires d'exploitation minière qu'en France. Et donc Truden a essayé de rattraper le retard de la France en faisant l'inventaire, en essayant de mettre en place un droit minier. Et ce fameux Philippe Frédéric de Dietrich, qui était donc aussi un grand savant, a fait des tournées d'inspection dans toute la France et en particulier en Alsace. Et donc, on raconte ça aussi à ce moment-là. C'est aussi l'occasion de parler de ce grand personnage alsacien qui est relativement peu connu. Et quand il est connu, c'est finalement une raison un peu annexe qui est l'histoire de la Marseillaise, mais qui a fait beaucoup d'autres choses dans sa vie, quoi.
Et il est assisté dans son entreprise par un autre strasbourgeois, scientifique de renom également, Philippe Gaétan Mathieu de Favier, qui est diplômé, lui, de l'École des mines de Paris, créée en 1783.
Voilà, donc ça, c'est encore aussi une des... Ce Truden a fait beaucoup de choses, et quand je disais qu'il s'est intéressé au sous-sol, il a mis en place tout un système, toute une administration, et notamment cette École des mines, et il incitait beaucoup ses élèves à partir sur le terrain, dans un premier temps à l'étranger, pour voir ce qui se passait ailleurs, pour essayer de rattraper le retard français, et puis après, sur le Royaume de France, histoire de dénombrer un peu toutes ces richesses-là. Et on publie d'ailleurs dans le numéro une carte magnifique, parce que alors ils ont dressé des cartes à ce moment-là, dans les années 1780, et notamment plusieurs cartes de l'Alsace et du Massif Vosgien. Et on voit déjà dans cette carte, ils ont... Avec les moyens de l'époque, ce qui est quand même fou, ils arrivaient à déterminer toutes les richesses. Et on voit déjà dans cette carte que l'Alsace est un véritable Eldorado, quoi. Mais sauf que Eldorado, ça veut dire or, mais s'il n'y a pas que de l'or, il y a très peu d'or. Mais il y a énormément d'autres richesses. Et d'ailleurs, on a créé nous-mêmes notre propre carte, histoire de ce qui est inédit, histoire de montrer quelles sont toutes ces richesses alsaciennes.
Alors, il y a également un article tout à fait intéressant sur les cabinets de curiosité qui sont en quelque sorte des musées privés, ouais, et qui permettaient de mettre en valeur les pierres qui sont extraites du sous-sol alsacien.
Donc ça, c'est vrai que c'est en fait, ce sont les ancêtres des musées, finalement. Ces cabinets de curiosité, ils ont eu cours au XVIIe et au XVIIIe siècle, et c'était des lettrés, des savants, et donc on disait, de Dietrich, on était un bon exemple, que ces gens de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie n'étaient pas seulement, pas toujours, des gens bien nés qui se contentaient de profiter de leur situation, mais c'était aussi souvent des savants, enfin ça pouvait l'être. Et donc certaines personnes comme ça avaient... étaient des collectionneurs, tout en étant des savants. Et donc, ils amassaient dans leur cabinet, chez eux, toutes les choses remarquables qui pouvaient exister sur Terre. Donc, c'était des minerais, c'était des animaux empaillés, c'était aussi, ça pouvait être aussi des premières inventions. Tout ça, donc il y en a eu évidemment en Alsace. On a l'exemple, donc c'est Claude Muller qui nous parle de ça, le directeur de l'Institut d'Histoire d'Alsace et président de la Fédération des Sociétés d'Histoire d'Alsace, qui collabore régulièrement aux saisons, et qui nous parle notamment d'Elias Brackenhofer, qui était au XVIIe siècle un membre éminent du magistrat de Strasbourg, et qui avait constitué comme ça une collection assez importante de pierres, d'œuvres d'art, de monnaies, de médailles, etc. Et puis, il y a un autre exemple qui est peut-être encore plus connu, c'est celui de Jean Herman, qui avait donc été pareil, un savant au XVIIIe, lui c'était le siècle d'après, qui avait dirigé le jardin botanique de Strasbourg, et dont les collections étaient tellement importantes qu'elles ont donné naissance à deux musées strasbourgeois, rien que ça, le musée de minéralogie, qui est dans l'enceinte de l'université, près du palais universitaire de Strasbourg.
Et celui de zoologie.
Et donc,
au musée de zoologie,
ouais.
On verra ce qu'il en sera dans sa nouvelle version.
Au moment de sa ouverture, ouais.
Mais il y avait ce cabinet de curiosité.
Voilà, et donc en fait, il est reconstitué quoi, dans le musée. On voit Jean Herman, un mannequin, et donc on a la photo évidemment dans le numéro des saisons, en train d'observer une de ses pièces de son cabinet, et on voit à quoi ressemblait concrètement ce cabinet de curiosité. Donc c'était intéressant. Et ce qui est intéressant aussi dans l'article de Claude Muller, c'est qu'il montre qu'il y avait déjà au XVIIe et XVIIIe un trafic, forcément, enfin un commerce de ces objets-là. Et il cite deux exemples d'un inspecteur des fortifications, donc qui, dans les années 1760, qui inspectait les fortifications d'Alsace 1770 plus précisément, le marquis de Langeron, et qui en profitait alors qu'il passait du côté de Sainte-Marie-aux-Mines, pour qu'est le grand lieu évidemment de tout ce qui est minerai en Alsace, et ça le reste aujourd'hui, qui en profitait pour aller acheter des pièces rares pour descendre dans les mines, etc. Enfin, il y avait une vraie passion pour ça. Et Claude Muller cite aussi des bénédictins, d'une abbaye de Münster qui était rattachée à l'abbaye de Sénone et puis passait par le col de Sainte-Marie-aux-Mines à l'époque parce que la Schlurte n'existait pas encore. Et ils en profitaient aussi, et il y avait un bénédictin qui venait acheter des belles pierres parce qu'il savait que son supérieur à Sénone aimait ça, et donc il y avait tout un trafic aussi déjà à l'époque de jolies pierres. Quoi. C'était aussi, au-delà des ressources pour un pays, c'était aussi des objets de collection pour certains lettrés. Quoi.
Et puisque nous parlons de pierres, rappelons que c'est grâce à Jean Herman que les deux statues de l'église et de la synagogue qui ornent le portail ouais. sud de la cathédrale ont été sauvées au moment de la terreur, puisqu'il les a enfouies dans le jardin botanique de Strasbourg.
Voilà, et puis accessoirement, il a donné son nom à une tortue aussi.
Tout à fait.
Voilà.
Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission passé-présent et on retrouve Hervé de Chalendard ensuite pour la présentation du numéro 96 des Saisons d'Alsace. C'est Serge Gainsbourg qui nous accompagne en chanson tout au long de cette émission. Nous allons écouter un titre de 1962, La chanson de Prévert.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma. Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien m'a fait. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de
mourir. Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka consacrée aujourd'hui au mystère du sous-sol alsacien. C'est le titre du numéro 96 de la revue Saison d'Alsace. Et pour nous le présenter, à mes côtés, en studio, Hervé de Chalandard. Hervé, l'exploitation du sous-sol alsacien est très ancienne. Elle remonte à l'époque romaine.
Oui, donc ça, c'est notamment pour le fer. Donc, toutes ces richesses, on essaie d'en énumérer la plupart. Donc, il y en a qui sont vraiment très connues, évidemment, l'argent, la potasse, le pétrole. Et puis, le fer aussi, qui est une ressource importante. Et là, on a un doctorant qui est en train de travailler là-dessus, qui s'appelle François Magard, qui a fait l'article sur le fer. Lui, il travaille sur la réduction du fer, c'est-à-dire le passage du minerai au métal. Et qui avait fouillé un ferrier, c'est-à-dire un ferrier, c'est un reste d'un ancien bas-fourneau. Il y avait bas-fourneau d'abord, et puis après, il y a eu les hauts-fourneaux à l'époque industrielle, du côté de Schirofen, dans l'Alsace du Nord, et qui date du 1er siècle de notre ère, donc vraiment l'époque romaine. Et donc, dès ce moment-là, on utilisait le fer, et il se trouve que l'Alsace, là encore, est bien pourvue, puisqu'il y en a à la fois dans la plaine, Schirofen, on est en plaine, et puis il y en a aussi, évidemment, dans les vallées vosgiennes et dans les Vosges, sous des formes chaque fois un peu différentes, ce qui fait qu'on a eu chaque fois des systèmes d'exploitation un peu différents. Mais après, la grande période de l'exploitation du fer, c'est plutôt le 16e, et puis il y a eu le 18e aussi avec la famille de Détriche dont on parlait, qui ont été les maîtres de forge importants dans tout le nord de l'Alsace. Il y a eu également sur Masvaux de l'exploitation du fer. Voilà, et puis sinon, bah, il y a l'argent, donc, qui est quand même le grand...
Ça, c'est la région de Sainte-Marie-aux-Mines.
Voilà, qui est aussi la grande exploitation historique en Alsace. Et là, on trouve des traces archéologiques qui montrent que dès le 4e, 5e siècle, il y avait des sortes de mines qui pouvaient être utilisées par les hommes. Là, la véritable exploitation dans le Val d'Argent débute plutôt sous l'époque carolingienne, donc on est plutôt 8e, 9e.
C'est une exploitation que l'on doit aux moines.
Voilà, donc il y a Saint Blidulf qui est arrivé du côté d'Echery et qui était venu pour se retirer, mais sauf qu'il a été un peu à l'origine aussi d'une exploitation. Et la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, donc qui a été appelée Val d'Argent, puisque évidemment ça a été une sorte d'Eldorado à l'époque, a connu, il y a eu environ plus de mille mines qui ont été creusées dans cette simple vallée, avec une exploitation vraiment la plus importante au moment du XVIe siècle. Là, il y a eu vraiment la ruée vers l'argent. Et puis ça s'est arrêté avec la guerre de 30 ans. Donc la guerre de 30 ans, c'est 1618-1648. En l'occurrence, c'était plutôt vers 1630 que ça s'est arrêté. Mais ça fait quand même, si on repart de l'époque carolingienne, ça fait quand même 8 siècles à peu près d'exploitation. Ce qui, d'après Pierre Fluck, qui est notre grand interlocuteur, grand spécialiste sur ce numéro, le géologue Pierre Fluck, ce qui est quand même un cas rarissime à l'échelle mondiale, pardon. Et après, il y a eu quelques reprises, 18e, 19e, pour essayer de réutiliser toutes ces ressources. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent ne vient pas seul, en fait. Il ne faut pas croire qu'on va à Sainte-Marie-aux-Mines, on est dans une mine d'argent, on ne trouve que de l'argent. On trouve une série de métaux, ce qu'on appelle une cour de métaux, avec l'argent. C'est du plomb, c'est du cuivre, c'est du cobalt, c'est de l'arsenic, c'est de l'antimoine. Et donc, quand on cherche de l'argent, en fait, on trouve plein d'autres métaux. Et donc, il y a eu des retours comme ça d'exploitation entre le 18e et le 20e siècle, notamment pour le cobalt. Mais, comme je le disais tout à l'heure à propos des cabinets de curiosité, ça reste vraiment un endroit béni pour tout ce qui est richesse minérale. Et donc, l'argent était le plus convoité. On a trouvé en 1581, un bloc d'argent de 580 kilos. Donc c'est pas mal, dans la montagne qui s'appelait le Neuenberg, qui a été exploitée à partir du milieu du 16e. Et donc, ça a été un peu l'apogée de cette période-là. Mais pour autant, ça n'a jamais été la Bolivie avec l'or. Ça n'a jamais été quelque chose d'extraordinaire non plus d'un point de vue production et quantité. Mais ça a été extrêmement important et ça a évidemment été l'objet d'énormes convoitises entre seigneurs, quoi.
Et aujourd'hui, il est toujours possible de visiter certaines de ces mines.
Oui, tout à fait. Donc, je disais qu'il y en a eu environ 1100 qui ont été créés sur toute la période. Il y en a encore 150-200 dont on connaît encore l'existence. Et puis certaines qui peuvent être visitées. Alors, il y a Tellure, le parc Tellure, qui est un parc de présentation comme ça de tout ce patrimoine minier qui a été créé sur une ancienne mine, Saint-Jean. Au nord de Sainte-Marie, enfin au nord, à l'ouest, mais plutôt en hauteur par rapport à Sainte-Marie-aux-Mines. Et donc, quand on va dans cet espace-là, on a à la fois la présentation pédagogique de ce qu'était l'exploitation de l'argent, mais on va aussi dans la mine. Enfin, il y a vraiment un côté où on vit la chose, quoi. Et puis, il y a une autre association dans la région, dans le secteur du Val d'Argent, qui s'appelle l'AZEPAM, qui fait descendre les personnes qui le souhaitent dans des mines. Et on voit ces mines qui ont été creusées à la main. Il y a des animations au moment de Noël avec des bougies, etc., des contes. Donc ce patrimoine est encore très vivant. Et ce qui est intéressant de dire sur cette vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et le Val d'Argent, et plus globalement d'ailleurs tout le massif vosgien concernant l'argent, parce qu'il y a eu Sainte-Marie-aux-Mines, mais il y a eu également de l'argent d'autres exploitations avec Scheid, à Stanbar, etc., ailleurs, dans la vallée de la Dolère, par exemple, c'est que c'est aussi devenu un grand site archéologique de la recherche minière, enfin de l'archéologie minière, de toutes ces techniques-là, de toute cette histoire-là. Et ça aussi, c'est important, parce que ça a été un site un peu pionnier, comme ça, un peu... Qui sortait de l'ordinaire au moment de l'exploitation, mais ça reste aussi un site assez remarquable pour ce qui concerne l'archéologie de cette histoire-là.
Au sortir de Sainte-Marie-aux-Mines, il est toujours possible d'admirer l'église des mineurs à Échery.
Oui, voilà. Oui. Et puis il y a la tour des mineurs. Enfin, il y a énormément de patrimoine qui reste... Ça a complètement marqué le paysage là-bas. Et alors, il y a eu aussi toute une histoire. Les amateurs d'histoire savent qu'à Sainte-Marie-aux-Mines, il y a deux rives qui n'ont pas forcément leur même... il y avait l'Alsace française et l'Alsace-Lorraine. Sainte-Marie française, pardon, et Sainte-Marie-Lorraine. Parce que comme il y avait des luttes de pouvoir, il y avait les ducs de Lorraine qui étaient là, ils se partageaient... c'était la Lièvre, je crois, qui faisait des limitations entre les deux parties de la ville. Et on voit que les bâtiments ne sont pas forcément les mêmes d'un côté ou de l'autre. Enfin, ça a fortement marqué toute l'histoire de cette vallée et ça se ressent encore aujourd'hui, ça se voit encore aujourd'hui.
Et les mineurs constituent un monde à part. C'est l'aristocratie ouvrière.
Oui.
Ils portent l'uniforme.
Tout à fait. Donc on essaye aussi dans ce numéro, parce qu'on... Comme toujours, dans les saisons d'Alsace, on illustre beaucoup les sujets et on montre effectivement, il y avait tout un... C'était un peu comme les uniformes de l'armée impériale, quoi. Il y avait une grande variété en fonction des grades, des origines, etc. Ouais.
L'exploitation du fer s'arrête au mi-temps du 19e siècle.
Oui. Bah après... Il y a eu aussi un problème de finitude, quoi, aussi, hein, des ressources d'une certaine façon. Et puis, on a trouvé aussi ailleurs des ressources plus importantes. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et après, les anciens sites ont été reconvertis soit dans le textile la plupart du temps, soit dans la construction mécanique. Voilà. Mais c'est que c'est toujours une affaire de rentabilité. C'est toujours comme ça que ça se passe. La potasse, elle s'est arrêtée parce que... on pourrait en parler de la potasse, mais...
On va en parler dans un instant.
Voilà, mais donc juste pour dire là-dessus, parce qu'il y avait aussi la concurrence du Canada à un moment où la potasse était beaucoup plus facile à exploiter qu'en Alsace. Et donc, à partir du moment où ce que vous faites venir de l'autre bout du monde vous coûte moins cher que ce que vous produisez ici, forcément, sauf à avoir une énorme appui de l'État, ce qui a été d'ailleurs un peu le cas dans le pétrole aussi, on pourra aussi en parler tout à l'heure, à Pechelbronn, bah forcément, on arrête.
Nous allons marquer une nouvelle pause musicale avec Serge Gainsbourg. Nous écoutons un de ses succès de 1963, la Javanaise, et ensuite nous parlerons du pétrole alsacien.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka consacrée à la présentation du 96e numéro des Saisons d'Alsace consacré au mystère du sous-sol alsacien. Pour en parler, Hervé de Chalandard. Hervé, l'Alsace a été un peu le Texas français durant l'entre-deux-guerres.
Alors, pas en termes de quantité, mais en revanche, ça a été un gisement précurseur et pionnier. Et ça, c'est vrai que c'est tout à fait étonnant aussi de s'en rendre compte. En termes de quantité, évidemment, quand sont arrivés le pétrole du Texas, de la Pennsylvanie, et puis évidemment des pays du Golfe, et il n'y avait aucune commune mesure. En revanche, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a eu une exploitation du pétrole en Alsace, bien avant les Américains. C'est-à-dire que à partir de... Donc il y a eu cette fameuse source bitumineuse de Lampertsloch, qui est à côté de Merkwiller, au lieu dit Pechelbronn, Elle était connue dès le 15e siècle à peu près, dès 1489. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand on va aujourd'hui dans la forêt dans un coin de la forêt de Haguenau, du côté de Kilstedt, on trouve encore des résurgences de pétrole dans la forêt. Enfin, voilà. Et donc là, il y avait cette... elle provient en l'occurrence d'un ancien puits, mais enfin, ça pouvait exister comme ça, que dans la forêt, à un moment donné, on ait une odeur de pétrole et qu'il y ait de la résurgence comme ça, naturelle. Et cette source, elle était connue dès 1489, mais elle a été exploitée dès 1735, et il y a eu la première compagnie, c'est en 1741, c'était la compagnie d'asphalte. Et donc là, évidemment, on est bien avant le boom pétrolier aux États-Unis, quoi. C'est 124 ans avant, parce qu'aux États-Unis, c'est en 1859 à Titusville que vraiment ça démarre. Et là, on est en 1735 dans l'Alsace du Nord, donc c'est incroyablement tôt. Et puis, donc, en 1741, ça devient une véritable compagnie. Et puis après, ça se poursuit. Alors, on va me dire pourquoi...
C'est en 1882 que, véritablement, se produit l'élan nouveau du pétrole alsacien.
Ouais.
Et c'est là qu'on entre dans une logique industrielle.
Ouais, tout à fait. Mais donc, juste... Pourquoi, on pourrait se demander, pourquoi exploiter des pétroles et en faire une compagnie alors qu'on n'avait pas encore inventé le moteur à explosion, qui sera inventé vers 1860. Donc là, on est plus d'un siècle avant, en 1735 et 1741. En fait, le pétrole était utilisé pour plein de choses, en particulier pour graisser les roues des charrettes, pour calfater. Les bateaux. Il y avait des raisons. Et il y avait même une vertu thérapeutique. Alors, on a un article spécifique là-dessus de Michel Knittel qui est passionnant. On le commence d'ailleurs avec les premières cases de À l'ombre des Derricks de Goscinny et de Maurice. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, évidemment, je parle de Lucky Luke. Qui raconte, qui montre exactement ça, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, avant qu'il y ait le boom du pétrole et que le pétrole ne soit utilisé pour le moteur à explosion, on utilisait le pétrole comme médicament miracle, soi-disant, pour régler des problèmes, soigner des problèmes de démangeaison, des maux abdominaux, enfin plein de choses comme ça. On l'ingérait même, on s'en servait comme pommade, on l'ingérait, etc. Et donc, ça a existé évidemment aussi chez nous, et on en fait tout un papier grâce à Michel Knittel qui nous parle de tout ça. Et puis, on rappelle aussi la figure du Kari Schmiermann, qui était un marchand de graisse d'asphalte, qui circulait, donc une espèce de colporteur d'asphalte, qui circulait dans le secteur de Pechelbronn. C'était un monsieur qui circulait avec qui poussait un tonneau plein de graisse d'asphalte qu'il allait vendre dans les fermes parce que c'était utilisé notamment, comme je le disais, pour graisser les roues de charrette. Et c'est devenu un personnage un peu mythique du pays de Pechelbronn. C'est quelqu'un qui a existé, qui s'appelait Louis Epting, qui est mort en 1933. Et il y a eu un tableau de lui, de Louis-Philippe Cam, qui est assez connu et qui est dans la mairie de Merckxwiller aujourd'hui. Donc ça, c'est la première utilisation du pétrole. Et puis, comme vous disiez, après, c'est devenu, il y a eu un vrai engouement, évidemment, pour le pétrole avec le monde moderne, la révolution industrielle. Et après, donc le premier qui avait créé cette compagnie, c'était quelqu'un qui s'appelait Louis-Pierre Aussilon de la Sablonnière. Et puis, il a cédé ça assez rapidement à une famille qui est devenue connue dans le secteur, qui était la famille Lebel. Donc, il y a eu 4 générations. Et puis, comme vous disiez, à partir des années 1880, plus précisément 1889, c'est un consortium d'Alsaciens, de grandes familles alsaciennes, donc on est sous l'époque du Reichsland, qui reprend ça. Et donc, on retrouve les Schlumberger, les Mig, les Dietrich, les Koechlin, enfin, toujours ces dynasties-là. Et puis après, ça passera dans le giron allemand à partir de 1906. Et après, dans le giron français, après la Première Guerre mondiale. Et là, c'est un site qui sera particulièrement choyé par les deux États, à la fois alternativement allemands et français, parce que le pétrole était un enjeu stratégique. Alors même si ça produisait peu, c'était quand même important d'avoir cette réserve-là, parce qu'en plus, il y avait les guerres, et ça pouvait être compliqué d'aller s'approvisionner ailleurs. Et ce gisement précurseur pionnier est devenu aussi un site un peu comme ça d'expérimentation, d'innovation technologique. Et il faut quand même rappeler que c'est en Alsace, dans les années 20, qu'ont été créées l'École nationale supérieure des pétroles en France. Donc c'est devenu l'école pétrolière de la France, en fait, l'Alsace, Bechtelbrunn. Donc il y a eu l'École nationale supérieure des pétroles qui a été créée, et puis l'École des maîtres sondeurs. Les deux ont été créés dans les années 20. L'École des pétroles, c'était à la fois sur Strasbourg, d'abord en Alsace du Nord et après sur Strasbourg. L'École des maîtres sondeurs, c'était en Alsace du Nord. Mais c'est pour dire à quel point ça a été un gisement important historiquement, même si ça n'a pas été un gisement important en quantité. Antar, tout le monde connaissait la marque Antar et on la connaît encore.
Ça, moi j'ai appris parce que je ne le savais pas en lisant.
C'est une marque alsacienne.
Ah oui, c'est une marque alsacienne. Oui.
Voilà,
tout à fait.
Donc elle a été créée en 1900.
Spécifiquement pour la commercialisation, la distribution du pétrole de Bechtelbrunn.
Voilà, c'est une marque qui a été créée en 1927. Alors c'était les lubrifiants, mais cette marque est devenue très connue. Antargaz existe encore, hein, je crois. Hein. C'était une marque alsacienne. C'était vraiment, le pétrole venait d'Alsace. Et puis après, il y a eu la Gironde aussi.
L'Aquitaine, oui.
L'Aquitaine, oui, qui était quelque chose de plus important. Mais ça a eu un rôle historique très, très important et c'est complètement oublié. Et cette mémoire-là est entretenue par le musée du pétrole à Merckwiller-Pechtelbrunn. Alors, Merckwiller est devenu Merckwiller-Pechtelbrunn. Pechtelbrunn, c'était juste le lieu-dit. Merckwiller, qui était le village à côté, est devenu Merckwiller-Pechtelbrunn. Et ce musée du pétrole qui nous a aidés pour faire ce numéro, c'est le musée français du pétrole. Voilà, c'est histoire de rappeler un peu le côté national, l'importance nationale du site.
Et l'optimum de la production se situe en 1933,
voilà,
avec 78 828 tonnes de pétrole extrait.
Voilà, c'est dans l'entre-deux-guerres. Et donc, à ce moment-là, l'Alsace, et plus particulièrement, évidemment, près de Bechtelbrunn, fournissait environ 5% du pétrole brut en France et 13% des lubrifiants. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, ça a été encore une fois, d'un point de vue historique et symbolique, quelque chose de très important. Et puis évidemment, c'est devenu des quantités absolument ridicules par rapport à tout ce qu'on a trouvé après. Encore une particularité de cette région-là, c'est qu'on a exploité aussi, à certains moments, le pétrole avec des galeries. Évidemment, on a tous l'image du pétrole. Je parlais de Lucky Luke tout à l'heure, mais enfin, c'est le cas partout. Où on a un derrick, et puis hop, ça jaillit, c'est sous pression, et puis on a un jet de pétrole qui sort tout seul. Ici, il y avait moins de pression et moins de quantité, et à certains moments, on allait chercher le pétrole dans des galeries, en descendant dans des galeries, comme on a pu le faire pour l'argent, par exemple. Ça, c'est aussi une particularité alsacienne. Ça a existé aussi ailleurs, c'est pas une spécificité, ça n'a pas existé qu'ici. Mais enfin, en tout cas, ici, ça s'est fait comme ça. Et on a développé des techniques ici qui ont pu être utilisées ailleurs ou qui pourraient encore de nouveau être utilisées ailleurs.
Nous allons marquer une dernière pause musicale dans cette émission passé-présent avant d'aborder la question de la potasse, qui est l'autre richesse du sous-sol alsacien. Nous écoutons Serge Gainsbourg. C'est son premier succès. Nous sommes en 1959, Le Poissonneur des Lilas. Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui, Hervé de Chalandard, pour présenter le numéro 96 des Saisons d'Alsace, consacré au mystère du sous-sol alsacien. La potasse qui est peut-être la plus jeune des richesses, si on met de côté le lithium qui nous plonge dans l'actualité de ce 21e siècle. La potasse qui est découverte en 1904.
Ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Joseph Vogt, qui était un industriel orinois. Il a découvert la potasse entre juin et octobre 1904, donc avec Amélie Surcher. Alors, je vais commencer peut-être par Amélie Surcher.
Amélie, elle est propriétaire du terrain.
Voilà, elle était propriétaire du terrain. C'était la fille d'industriel du textile. C'était pas quelqu'un qui était forcément dans le besoin, mais elle avait des terrains du côté de Wittelsheim, dans la forêt du Nonnenbruch. Et il se trouve qu'il y avait eu, donc, au début du 20e siècle, fin 19e, début 20e, des périodes assez difficiles. Et elle a eu une sorte de vision, elle s'est dit, si le bon Dieu ne m'a pas donné des richesses sur mon terrain, c'est qu'il y en a en dessous. Et à l'époque, voilà, il y avait le pétrole déjà, il y avait des choses comme ça, il y avait la houille. Et donc, elle pensait plutôt trouver de la houille et du charbon. Et elle a fait appel à Joseph Vogt, qui était quelqu'un du Haut-Rhin et qui s'était spécialisé comme ça dans la prospection. Et ce qui est étonnant, c'est que ce Joseph Vogt, il a fait donc un sondage entre juin et octobre sur le terrain d'Amélie, juste à côté du puits Joseph Hels aujourd'hui à Wittelsheim. Et il cherchait de la houille, il a trouvé la potasse. Et ce même Vogt, un peu avant, au printemps 1904, à Morsbronn, il cherchait du pétrole, il a trouvé la source d'eau chaude de Morsbronn. Donc c'était un grand découvreur, mais pas forcément de ce qu'il...
Il aurait pu continuer, faisait la tarte tatin.
Voilà, mais donc c'était un grand découvreur, mais pas de ce qu'il cherchait. Voilà. Donc ils ont découvert cette potasse à environ 600 mètres sous terre. Alors la potasse, comme ça a l'air de rien... Plus précisément, donc, c'est de la sylvinite qui est un mélange de chlorure de sodium et chlorure de potassium. Le chlorure de potassium, c'est la potasse. Et il se trouve que la potasse, c'est important parce que c'est un des engrais naturels essentiels pour la culture. Et donc, on s'est dit, on va exploiter ça. Et ça a complètement, évidemment, transformé une région. Il y a une région qui est née, qui est le bassin potassique. Donc, qui est dans une espèce de triangle comme ça entre Ensisheim, Cernay et Mulhouse.
C'est quand même plus de 220 km².
Hein. Ouais, c'est ça. C'est toute une partie comme ça du Haut-Rhin qui s'est spécialisée là-dedans. Ça a démarré très vite. Il y aura quand même 11 mines et 24 puits qui seront creusés dans la région. Et puis, il y aura, au plus fort de l'actualité, il y aura quand même 13 800 personnes qui vont travailler dedans. Donc ça, le plus fort de l'actualité, c'est en 48. Et donc, la découverte est faite en 1904. Les premières exploitations commencent en 1910. Ce qui est peut-être intéressant de rappeler, c'est qu'il y a eu en fait deux sociétés au départ. On est encore dans le Reichsland à ce moment-là. On est avant la Première Guerre mondiale. Il y a une société qui est créée avec des capitaux allemands. Enfin, il y a trois sociétés avec des capitaux allemands, pour être précis. Et puis, il y en a une qui est créée toujours par ce Joseph Vogt, le découvreur de ce qu'il ne cherchait pas, qui crée sa société qui s'appelle Cali-Sainte-Thérèse en 1910. Et celle-là, il la crée avec des capitaux à la fois alsaciens et français. Et donc, il y a ces deux sociétés qui coexistent, ces deux sociétés qui exploitent la potasse. Cali-Sainte-Thérèse, KST, c'est plutôt dans le nord du gisement. Après la Première Guerre mondiale, la première société est rachetée par l'État français, ça devient les mines domaniales de potasse d'Alsace. Et les mines domaniales de potasse d'Alsace, les MDPA, vont absorber dans les années 50 KST, et ça ne sera plus qu'une même entité. Et donc ça a été, évidemment, ça a été quelque chose de totalement une vraie saga. Enfin, je veux dire, nous on parle d'aventure humaine quand on parle de ces sagas de l'argent, du pétrole et de la potasse, mais c'est une vraie saga ici. Il y a quand même eu 18 cités minières qui ont été créées.
Un afflux de population migrante, des Polonais, des Italiens.
Des Polonais, 3000 Polonais qui sont arrivés très vite sur place. C'était une Alsace dans l'Alsace, c'était une Alsace républicaine aussi. On dit souvent le bassin potassique avec un grand administrateur qui s'appelait Pierre de Retz, qui était un grand républicain. Et c'était un lieu un peu à part du code du reste de l'Alsace d'une certaine façon. Et donc, il y a eu ces cités minières qui étaient très en avance sur leur temps. Il y avait un côté paternaliste, mais il y avait aussi des éléments de confort réel, quoi, parce que ces petites maisons, elles avaient les toilettes, non pas au fond du jardin, mais au sein de la maison. Enfin, il y avait un vrai... C'était le meilleur habitat ouvrier de l'époque, quand ils ont été créés dans les années 1930, quoi, ou 1920. Donc ça a été quelque chose de très important. Et puis cette potasse, comme tout, au bout d'un moment, ça s'est arrêté parce qu'il y avait, on en parlait, la concurrence des mines étrangères, parce qu'il y avait aussi un épuisement du filon. Et donc
Premiers puits ferment très tôt, 1954.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc parce que il y a toujours des affaires de rentabilité, etc. Et on voulait symboliquement tenir jusqu'à 2004. Parce que la découverte avait été en fait en 1904. Et en fait, l'exploitation s'est totalement arrêtée en 2002, parce qu'il y a eu l'incendie dans Stockamine. Donc Stockamine, ça nous ramène aussi à l'actualité. C'est un projet d'enfouissement de déchets qui a été fait dans une mine de potasse, qui a été les premiers enfouissements ont eu lieu en 99, donc pour des déchets ultimes dangereux. Et puis il se trouve qu'en 2002, il y a eu un incendie dans une galerie de Stockamine. Et tout a été arrêté, évidemment Stockamine a été arrêté, mais on a du coup l'exploitation en fait qui n'était prolongée que de façon un peu symbolique pour durer jusqu'en 2004, s'est arrêtée en 2002, donc tout a été arrêté à ce moment-là. Stockamine fait encore partie de l'actualité puisqu'il reste quand même 40 000 tonnes de déchets sous terre. Et il y a un imbroglio entre les associations écologistes qui souhaitent les sortir parce qu'elles considèrent que c'est un risque à terme, notamment pour la nappe phréatique, qui est une autre grande richesse d'ailleurs qu'on aborde dans ce numéro, et puis l'État qui préférerait enfouir ce qui reste. Donc voilà, mais c'est une très belle histoire, la potasse, et c'est une histoire qui continue, et c'est pour ça qu'on l'a traitée aussi sous forme plutôt de reportage, parce qu'il y a les anciens mineurs qui sont encore là. Les mineurs de fond, ça s'est arrêté en 2002, mais ils sont encore là, pour certains, et ils font revivre cette histoire-là sur deux sites, au groupe Rodolphe, au nord du gisement, et puis au musée de la mine et de la potasse à Wittelsheim avec l'association Calivi. Et c'est franchement, c'est des personnes absolument formidables. Il y a un vrai esprit de solidarité de la potasse qui n'est pas une légende, qui existe vraiment et qu'on retrouve encore en allant les voir. Donc il faut le faire tant qu'ils sont encore là. Et c'est vraiment une histoire qui l'aventure humaine continue pour la potasse. L'esprit potasse continue. La potasse n'est plus exploitée, mais l'esprit est encore là.
Hervé de Chenandard, merci beaucoup pour cette présentation du numéro 96 des Saisons d'Alsace, consacré, je vous le rappelle, au mystère, au pluriel, du sous-sol alsacien. C'est en chanson que nous allons nous séparer, toujours avec Serge Gainsbourg. Nous écoutons un titre de 1964, Couleur Café. Et avant cela, je voudrais remercier Lucas qui a réalisé cette émission.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Thank you.
Thank you.